Frères et sœurs, Jésus nous enseigne aujourd'hui sur l'humilité et l'orgueil, on pourrait dire. Et il veut reprendre un petit peu, en tout cas inviter à réfléchir ceux qui se croient supérieurs aux autres, ceux qui sont pétris d'orgueil. Alors c'est intéressant parce que Jésus aurait pu donner une parabole un peu du style de la parabole des invités au festin, en disant « quand vous êtes les uns avec les autres, voilà comment vous vous comportez, eh bien moi je vous dis de faire… » Bon, c'est pas ça que Jésus fait. Quand Jésus veut nous parler de l'orgueil et démasquer notre orgueil, il prend comme exemple notre dialogue avec Dieu, le dialogue de la prière. C'est étonnant. Comme si Jésus voulait nous dire quand dans votre vie vous laissez l'orgueil vous ronger, ça n'est pas simplement un problème entre vous, frères et sœurs, mais le problème va se situer aussi dans votre relation à Dieu. On sent bien d'ailleurs que dans la parabole, ce pharisien qui se croit meilleur que les autres, eh bien, de la même manière, il se présente devant Dieu en disant « T'as vu qui je suis, Seigneur ? » C'est pas mal quand même. On voit bien que ça déteint notre comportement les uns avec les autres, déteint forcément sur notre relation à Dieu. Alors il ne s'agit pas simplement d'entendre cette parabole juste comme une leçon de morale. Bon, après, si c'était ça, il n'y a pas trop besoin de commenter la parabole parce que c'est assez clair. Je crois qu'il faut aller un peu plus loin et lui donner un écho pour notre vie spirituelle. Et du coup, peut-être pourrions-nous nous attarder sur la qualité de notre prière, la qualité de notre relation à Dieu, en espérant que si nous sommes dans une relation juste avec le Seigneur, cela, d'un autre côté, déteindra aussi dans notre relation les uns avec les autres. Et alors nous avons entendu dans la première lecture, le début de la première lecture, le livre, ce passage du Siracide, du livre de Ben Sira, le sage, « Le Seigneur est un juge impartial ». Peut-être que notre prière devrait toujours commencer par ça. Avant, on avait l'habitude de dire, moi je me souviens quand j'étais scout, quand notre aumônier commençait la prière, et il disait, ça avait l'air d'être un petit refrain habituel, mais c'est pas si anodin que ça. « Mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le. » Ça doit rappeler quelques souvenirs à certains d'entre vous. Et c'est peut-être ça, justement, le début de la prière. On n'arrive pas seulement à prier comme on n'entre pas dans une église en disant « Ah Seigneur, me voilà, j'ai ça à te dire. » Là, on est comme les pharisiens. Faisons silence. Mettons-nous dans cette présence de Dieu. Que notre prière soit attentive d'abord à Dieu lui-même avant d'être attentive à nous-mêmes. Ce serait déjà pas mal. Et du coup, on découvre, parce que c'est ça que veut dire ce passage du Siracide, Dieu n'est pas un juge impartial au sens où il nous ferait peur. Dieu est un juge impartial au sens où, sous son regard, nous sommes dans une transparence absolue. Et alors, si nous commençons comme ça, nous n'allons pas jouer, nous n'allons pas louvoyer devant Dieu. Hein. Si nous sommes dans cette transparence absolue, alors nous-mêmes nous allons nous voir dans cette transparence. Et alors notre parole dans la prière sera juste. Et nous commencerons par nous voir tels que nous sommes, c'est-à-dire des pauvres. Quoi. Des pauvres pécheurs, mais ce n'est pas juste une appellation. C'est des pauvres qui sont loin de Dieu, oui. Qui sommes indignes de Dieu. Combien de fois la liturgie nous fait-elle dire « Seigneur, je ne suis pas digne, regardez, juste avant la communion, Seigneur, je ne suis pas digne. » Eh oui, eh oui. Tu te présentes devant moi, dit Dieu, aie conscience de cette indignité. Non pas pour t'en sentir écrasé, aie conscience de ton indignité, c'est-à-dire aie conscience que malgré cette indignité, Dieu veille sur toi, Dieu t'aime comme son enfant. Et quand on se reconnaît pécheur dans la prière, quand le corollaire, on pourrait dire, hein, de, de cette mise en présence de Dieu, c'est que, ah oui Seigneur, je suis un pauvre type, un pauvre pécheur, eh bien je découvre que Dieu m'aime malgré cela. Et là je commence à entrer dans une vraie relation avec le Seigneur. Là je commence à comprendre ce que veut dire l'amour du Seigneur. Et donc c'est la première chose. Être d'abord devant Dieu, attentif à cela, et dans une posture d'humilité, pas une humilité feinte, pas une fausse humilité, une vraie humilité. Seigneur, je me mets en transparence devant toi. La deuxième, on pourrait dire, la deuxième chose qu'il nous faut avoir, c'est ce qui est dit d'ailleurs dans la fin de la première lecture. Le pauvre, dans sa prière, est inconsolable. C'est beau ce mot. Le pauvre est inconsolable, non pas parce qu'il pleure, etc., et qu'il est capricieux comme un enfant. Il est inconsolable en attendant que Dieu l'exauce. Il est inconsolable tant que sa prière n'a pas atteint son but, dit le Ben Sira. En fait, une vraie prière, c'est une prière qui attend. C'est une prière qui demande, bien sûr, mais qui se place surtout dans une disponibilité à attendre ce que Dieu veut donner. Et donc, dans une grande confiance, on dit que la prière est toujours l'expression de l'espérance. Celui qui prie, c'est qu'il espère. Et qu'espère-t-il? Peut-être qu'il espère des choses pour maintenant. Il demande au Seigneur, « Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin que tu m'aides pour ceci, pour cela. » Mais ultimement, il espère le ciel. Ultimement, il espère Dieu lui-même. Toute prière est en attente de recevoir Dieu lui-même. Et d'ailleurs, c'est ce qui se dégageait de ce très beau passage de saint Paul à son disciple Timothée. Saint Paul est en prison quand il écrit. Il est dans le fond de son cachot, on pourrait dire un oublié. Et il dit, je suis dans une pleine confiance et une pleine paix dans ce que le Seigneur va me donner. Bien sûr, je suis attaqué, bien sûr, je suis porté devant les tribunaux, bien sûr, je suis jeté dans la gueule du lion, mais le Seigneur veille sur moi. C'est très beau, ça. Saint Paul est dans une prière très paisible. Parce que, justement, il attend de Dieu, il attend Dieu. Voilà la deuxième caractéristique, pourrions-nous dire, de la prière. Attendre. Le Seigneur lui-même, plus encore que ce qu'il peut nous donner. Le Seigneur lui-même. Et puis, il faut ajouter, parce que c'est quand même quelque chose qui revient, et on l'a chanté dans le psaume, notre prière doit être une prière de pauvre. Probablement que ces conditions-là, un peu comme, vous vous souvenez, la veuve et le juge sans justice de dimanche dernier, la prière persévérante. Eh bien, la prière du pauvre, c'est probablement celle qui est revêtue de cette persévérance, de cette humilité, de cette confiance. Mais la prière du pauvre, c'est quoi? Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je me suis toujours étonné de ce refrain qu'on entend dans plusieurs psaumes, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? On a l'impression que c'est un peu raplapla. Pas du tout. Un pauvre cri, c'est qui ce pauvre qui crie? Alors on a envie de dire tout de suite, mais c'est moi, Seigneur, reconnais. Non, non. Un pauvre cri, c'est le Christ qui crie. Qui a une véritable prière de pauvre? Non pas une pauvre prière, ça c'est autre chose. Une prière de pauvre, c'est le Christ. Non pas parce qu'il est pauvre devant son Père. Lui, il est riche de la vie de son Père. Il est riche de la communion trinitaire. Mais il est pauvre de notre pauvreté qu'il a endossée. Et il est le modèle de la prière. Il nous invite à prier comme lui. Et qu'est-ce que c'est que la prière du Christ? Regardez tout à travers l'Évangile. La prière du Christ, c'est vraiment cette prière de pleine confiance et de plein abandon à son Père. Voilà ce qu'est la prière du pauvre. Et notre prière devrait toujours, toujours rejoindre la prière du Christ. On voudrait dire s'immiscer dans la prière du Christ. Pourquoi concluons-nous? On dit tellement de choses à la messe et on le dit tellement souvent que ça en devient comme une habitude. Je trouve ça très désolant. Quand nous prions, nous raisons, Seigneur Dieu, nous te demandons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, c'est pas moi qui te demande, Seigneur Dieu, Dieu mon Père. c'est Jésus qui te le demande pour moi. Et je me glisse dans la prière de Jésus. Et ça, c'est la vraie prière du pauvre. On ne va pas faire le fanfaron devant le Seigneur, on va rejoindre celui qui sait prier. Celui qui sait être avec son Père. Et finalement, pour nous, la prière de Jésus, il y a des exemples dans l'Évangile, mais la prière de Jésus, c'est de notre Père. Ce qu'on appelle la prière dominicale. Non pas parce que c'est la prière du dimanche. Hein. C'est la prière du Seigneur. Et que nous dit l'Église quand elle nous invite à prier notre Père à la messe? Elle nous dit, notre famille, elle nous dit, comme Jésus nous l'a appris selon son commandement, nous osons dire ce mot-là, très beau. Nous osons dire. C'est pas très beau à dire comme ça fait bizarre, mais on osote comme ça. Mais oser s'immiscer dans la prière de Jésus. On voit bien que cette audace, c'est l'audace du publicain. Seigneur, je ne suis qu'un pauvre type et j'ose m'adresser à toi. Le pharisien, on peut dire, il ose aussi, mais ce n'est pas tout à fait le même genre d'audace. Il est plutôt culotté qu'audacieux. Oser prier dans le Christ. Et alors, oser prier dans le Christ, c'est prier notre Père avec cet esprit pauvre. On entendra bientôt, hein, la fête de la Toussaint n'est pas loin, on entendra les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur. Peut-être qu'elle commence là, la prière du pauvre. Être pauvre de cœur à l'école de Jésus. Demandons au Seigneur de nous aider, nous fortifier, pour que nous ayons l'audace de rejoindre le Christ dans sa prière toujours. Amen.